Enfin, bonsoir et bon début de semaine à tous. Avril 2012, avril 2013, il y a de cela une année que les affrontements éclatés au Nord Kivu entre les FRDC et les troupes ex-CNDP qui ont constitué plus tard le M23. Sur le plan militaire, une accalmie relative est observée actuellement. Et sur le plan politique, les pourparlers entre les deux parties à Kampala sont en cours. Quelle évaluation faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 29 avril 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu, la réalisation me signale. Maître Omar Kavota, bonsoir.
Bonsoir madame Kelly.
Et Jason Searns, il est directeur du projet Usalama, un projet de recherche sur les conflits à l'est de la RDC. Monsieur Jason, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tout le monde.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions et points de vue. C'est le cas de prof Ignace Ndala de Kolwezio Katanga. Je pense que notre gouvernement ne joue pas franc jeu en appelant de tous ses voeux la brigade à venir d'un côté, tout en négociant avec l'une des cibles de la dite brigade. Le M23 est un interlocuteur dangereux, mais dépassé. Teddy Longué de Bukavu au sud Kivu. L'évaluation que je peux faire, c'est le constat amer de voir que les trois options qu'avait préconisé le chef de l'État pour mettre fin à la guerre n'ont pas produit des fruits. Au contraire, elles ont permis aux rebelles de bien s'organiser jusqu'à installer une administration parallèle. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Avril 2012, avril 2013, il y a de cela une année que les affrontements éclataient au Nord Kivu entre les FRDC et les troupes ex-CNDP qui ont constitué plus tard le M23. Ces affrontements étaient précédés des désertions au sein des FRDC qui ont commencé vers le 28 mars 2012 et se sont intensifiés au mois d'avril. Les véritables raisons de ces désertions n'ont jamais été données. Plusieurs sources au sein de l'armée et même des sources administratives avaient confirmé que la majorité des déserteurs étaient issus de l'ex-mouvement armé, le CNDP. Mais le chef d'état-major général des FRDC avait à l'époque déclaré que les déserteurs n'étaient pas des ex-CNDP, mais les avait plutôt qualifiés d'indisciplinés. Alain Hunk nous en dit plus.
Le 1er mai 2012, dans une conférence de presse, le gouverneur du Nord Kivu annonce que Bosco Ntaganda doit être arrêté. Pour lui, Bosco Ntaganda doit être arrêté et jugé par la justice militaire congolaise, tel en a décidé le gouvernement congolais. Le gouvernement de la RDC le cite comme instigateur des désertions observées au sein des FRDC au Nord Kivu et instigateur des attaques dirigées contre les positions des FRDC dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Le 4 mai, le colonel Makenga déclare la révolte des militaire ex-CNDP et créé le M23 le 6 mai 2012. Entre-temps, le groupe d'experts de l'ONU a publié son rapport final qui met en évidence le soutien avéré du Rwanda et de l'Ouganda aux rebelles du M23, rapport que rejettent les deux États. Le 8 août s'ouvre le premier sommet de Kampala sur la crise à l'est de la RDC. Les chefs d'État de la CIRGL se retrouvent tous à Kampala pour traiter de cette question. Le 20 novembre, la ville de Goma est prise par le M23 qui se retire le 1er décembre 2012. Le 9 décembre, les pourparlers s'ouvrent à Kampala entre le gouvernement de la RDC et les rebelles du M23 pour évaluer les accords du 23 mars. Le 24 février 2013, l'accord cadre est signé à Addis Abeba entre la RDC et les États de la région en présence de l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et la SADC. Le 28 mars 2013, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 2098 qui met en place la brigade d'intervention en RDC. Cette force aura pour mission de traquer tous les groupes groupes armés en RDC, y compris le M23, suscitant ainsi plusieurs réactions du Rwanda et du M23. Entre-temps, les pourparlers qui se poursuivent à Kampala entre le gouvernement et le M23 semblent tomber dans une certaine léthargie, d'après plusieurs analystes.
Merci Alain Rung. Julien Paluku, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Quelle évaluation faites-vous un an après, depuis les débuts des affrontements entre les ex-CNDP devenus aujourd'hui M23 et les FARDC?
Merci beaucoup. Je commence par saluer Omar Kavota et M. Jason. Comme a si bien dit Alain Rung tout à l'heure, je suis heureux d'avoir annoncé il y a une année que Bosco Ntaganda devait être arrêté et avant une année que vous ne m'invitiez, Bosco Ntaganda est à la CPI. C'est donc un sentiment de satisfaction.
Arrêté, jugé par les cours congolaises.
Non, arrêté, n'en déplaise à ceux qui veulent qu'il soit au Congo. Au moins, il est arrêté, il est en prison. C'est déjà un vœu que j'ai formulé il y a une année, madame. Alors, comme vous parlez de quelle évaluation j'ai fait, en lisant la synthèse qui vient de faire Alain Rung, vous savez que quand on fait une analyse d'une année, il y a ceux qui parlent toujours en termes de révélation de l'année. Moi, j'estime que à mon sens, il faut aussi que je donne ce que j'appelle les révélations de l'année M23. Moi, j'en ai identifié deux types. La première révélation, c'est que cette guerre de M23 nous permet finalement d'identifier les acteurs externes qui déstabilisent l'Est de la RDC. Et là, je fais donc référence au rapport des experts des Nations Unies qui ont clairement identifié ce qui déstabilise l'Est en hommes, en matériel, en stratégie. Ça, c'est donc une grande révélation que cette guerre aura permis à ce que la communauté internationale puisse identifier les acteurs externes. La deuxième révélation, c'est l'appropriation des souffrances des populations de l'Est par et les Nations Unies, et l'Union africaine, et la CIRGL, et la SADC face à la crise humanitaire qu'on a constatée ici. Et là, je vois à travers cette appropriation la conjugaison de 5 éléments. Le premier élément, c'est que on a organisé 5 sommets des chefs d'État de la CIRGL. Le deuxième élément, c'est qu'on a organisé un sommet de la SADC sur la crise à l'Est. Le troisième élément, c'est qu'on a signé un accord cadre le 24 février à Addis Abeba. Le quatrième élément, c'est que le Conseil de sécurité a signé 2 résolutions. Lorsque la ville de Goma est tombée, le 20 novembre, le Conseil de sécurité a signé la résolution 2076 qui ordonnait le retrait immédiat de M23 de la ville de Goma, ainsi que la résolution 2098 qui instituait la brigade. Et le cinquième élément, c'est la nomination finalement de Mme Robinson, qui est arrivée d'ailleurs à Kinshasa, comme envoyée spéciale de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Donc, je considère que ces 2 révélations-là font en sorte que les problèmes de l'Est sont désormais connus, les acteurs sont identifiés, et certainement, quand le médecin a bien diagnostiqué la maladie, il ne peut que faire une bonne prescription. Voilà les petits commentaires que je peux faire de cette année M23 avec ces 2 révélations.
Donc, monsieur le gouverneur, si je vous comprends bien, le M23 est un peu considéré comme un mal nécessaire, car c'est grâce à ce mouvement, comme vous l'avez dit, qu'on a pu identifier les acteurs extérieurs de cette guerre au Nord Kivu.
Il n'y a pas de nécessité pour une guerre. Il n'y a que des révélations que nous avons eues à travers la guerre du M23. Donc, je préfère parler en termes de révélations qu'en termes de nécessité, parce que lorsqu'il y a eu des vies humaines qui se sont éteintes, on ne peut pas dire que le M23 est nécessaire pour nous avoir permis cela. Je crois que l'Est de la RDC, qui a longtemps été troublé, a finalement, à travers ses fils et ses filles, fait en sorte qu'il y ait à un moment donné de l'histoire une structure qui s'appelle M23 qui permette effectivement de comprendre d'où vient souvent la crise et comment nous devons y apporter des solutions. Je suis donc heureux que toute la communauté internationale s'est déjà appropriée la crise de l'Est et que donc nous sommes sur le chemin de la fin de la crise de l'Est.
Alors comment vous répondez à cet auditeur qui dit ceci, par exemple, il s'appelle Teddy, il nous écrit de Bukavu au sud Kizu, l'évaluation que je peux faire, c'est le constat amer de voir que les 3 options qu'avait préconisé le chef de l'État pour mettre fin à la guerre n'ont pas produit des fruits. Au contraire, elles ont permis aux rebelles de bien s'organiser jusqu'à installer une administration parallèle.
Non, je ne pense pas que l'auditeur ait raison. 3 options, c'est quoi? L'option militaire, l'option diplomatique et l'option politique. Je pense que l'option diplomatique a primé. Et lorsque j'ai énuméré l'appropriation de la communauté internationale des souffrances du peuple congolais. Je crois que c'est important que les gens retiennent que cette option-là a fait ses preuves et qu'aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'à travers ce qui a été fait, on a noté deux grandes surprises dans cette guerre de l'Est. La première surprise, c'est qu'il y a eu même une guerre interne au sein du M23 où une faction qui s'appelait Makenga, une autre qui s'appelait Bosco, ces deux factions se sont affrontées avec des milliers de morts entre eux que nous regrettons parce que ce sont des Congolais. Je crois que ça aura été une grande première dans l'histoire des rébellions où des rebelles se tirent dessus entre eux et finalement l'un d'entre eux vient à capituler. Et la deuxième surprise, c'est effectivement la reddition de Bosco Ntaganda à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Comme vous le savez, il a parcouru 150 km à l'intérieur du territoire rwandais sans que aucun policier, aucun militaire, aucun élément de sécurité ne puisse le voir. Je crois que c'est quand même des avancées significatives auxquelles on est arrivé.
Mais le gouvernement,
même si on n'est pas encore arrivé à la fin, comme tout le monde veut le souhaiter.
Alors, monsieur le gouverneur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Francis Joseph Wonzemba Lokombe, depuis Kinshasa, commune de Ngaliema. La meilleure évaluation de la situation, c'est dire que le gouvernement congolais est mauvais perdant, car il discute en position de faiblesse, à la veuglette et avec un agenda taillé aux impositions du M23. La solution ne viendra pas de Kampala, puisque le M23 a déjà quitté la table de négociation. La RDC doit rappeler immédiatement et sans condition sa délégation et focaliser son attention à la réalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi qu'à la résolution 2098 des Nations Unies.
Réaction, monsieur le gouverneur.
Oui, la RDC n'est pas un mauvais perdant. Moi, je crois que quand on construit une vision, il n'est pas nécessaire que tout le monde comprenne la vision. C'est quand la vision arrive à produire ses effets que les gens la comprennent. Aujourd'hui que nous sommes en guerre et que petit à petit une vision est en train d'être construite pour qu'on élimine définitivement la menace qui pèse sur la sécurité à l'Est et partant sur la région des Grands Lacs, je crois que le jour où nous arriverons à avoir la paix durable, c'est ce jour-là où tous ceux qui sont en train d'ergoter autour de mauvaises stratégies reconnaîtront qu'il y a une vision qui a été construite mais qui n'était pas comprise. Et je crois que le visionnaire n'a pas besoin de partager sa vision avec tout le monde. Il faudrait qu'à la fin, les gens adhèrent à la vision quand les résultats seront palpables. C'est ça le commentaire que je peux faire de cette situation.
Merci, monsieur le gouverneur. Maître Omar Kavota, je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Quelle est votre évaluation à vous, une année après les débuts des affrontements entre les M23 et les FRDC au Nord Kivu?
Merci, madame, pour la question. Et permettez que je commence aussi par saluer son excellence, monsieur le gouverneur de province, ainsi que notre analyste politique, et aussi tous nos auditeurs. Et s'il faut revenir à votre question, madame, avril 2013, ça signifie une année d'existence du M23, ça signifie aussi une année de souffrances insupportables imposées au Nord Kivusien par les Rwanda et l'Ouganda à travers le M23. Cela signifie également 20 ans de guerre, considérant que le M23 n'a été que le prolongement du CNDP, du RCD, de l'AFDL et ceux qui ont précédé, donc ceux qui ont amené la guerre au Nord Kivu, comme il y a de cela 20 ans. Et lorsque nous évaluons un an d'existence du M23, nous réalisons que les dégâts sont énormes. Vous savez, madame, que en ce jour, lorsque nous nous mettons à évaluer cette existence du M23, nous avons la chair de poule, parce que plus d'un million de populations sont déplacées ou réfugiées. Plusieurs centaines de civils sont tués. Des milliers de femmes ont été violées. Des enfants enrôlés de force dans le mouvement armé, le mouvement M23. Plus de 320 véhicules des particuliers ont été pillés par le M23 lors de la prise de Goma. Une administration parallèle imposée aux populations des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo et malheureusement une administration parallèle avant d'être étendue ailleurs, considérant ce qui s'organise aujourd'hui par le M23. Et donc, c'est une situation de désastre indescriptible que nous avons remarqué et nous pensons qu'on doit arriver à en finir pour libérer la population de ses souffrances.
Alors, Maître Marc Avota, il y a certains observateurs qui estiment que le gouvernement n'a pas... la gestion de la guerre par le gouvernement n'a pas été bonne.
Oui, nous l'affirmons aussi au niveau de la société civile. Le gouverneur de province a donné certains éléments qui qui peuvent qui être considérés comme ayant été dit de tout le monde à la suite de cette guerre, identifier les acteurs extérieurs, l'appropriation par la communauté internationale des souffrances de la population, surtout sur le plan humanitaire. Mais nous, au niveau de la population, nous avons réalisé également que cette guerre a permis qu'on puisse découvrir la peur du gouvernement congolais. Cette guerre nous a permis de considérer que le gouvernement congolais a peur du Rwanda et de l'Ouganda, parce que tout le monde, bien que le gouvernement a identifié le Rwanda comme son agresseur, bien que le gouvernement a su preuve à l'appui que l'Ouganda était l'un de ses agresseurs, mais il a accepté venir négocier avec le M23, à organiser des pourparlers avec le M23 sous les auspices de l'Ouganda qui est l'agresseur. Nous pensons que c'est aussi un regard qu'on doit tirer de cette guerre. La mauvaise gestion de la guerre, en tout cas, elle a été visible parce que l'armée n'a pas réussi à arrêter le M23. Et nous pensons que c'est pour nous une honte de considérer que le M23 récupère la ville de Goma et se retire de cette ville, pas parce que il a subi la puissance de feu, mais parce qu'il y a une pression de la communauté internationale agissant sur le M23, l'amenant à se retirer à 20 km. Jusqu'aujourd'hui, il ne s'est jamais retiré de 20 km, mais le gouvernement est dans la faiblesse de pouvoir le retirer de là où il est. Donc c'est vraiment une guerre qui a été gérée de manière mauvaise et la population a réalisé que le gouvernement central l'a presque abandonné dans ses souffrances.
Alors, on va prendre pour vous, Maître Omar Kavuta, cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province orientale.
Moi, c'est Pépé Lissungi Botomoito de Kisangani, la province orientale. Là, un de la guerre au Nord Kivu, nous devons accepter que tout le monde a échoué. Gouvernement, société civile et la communauté internationale. Nous devons lutter à organiser et structurer notre armée, avoir le respect des accords et éliminer même à 60% la pauvreté et l'impunité qui est à la base de ces troubles. Être des responsables devant le monde, car ils sont cités aujourd'hui comme les agresseurs, sont aussi des États comme la RDC, car la force nette ne restera pas internellement en RDC.
Maître Omar Kavuta, comment vous réagissez? Tout le monde a échoué dans cette situation du Nord Kivu.
Si on peut considérer que les autres acteurs ont échoué, en tout cas ce n'est pas au niveau de la société civile, parce que nous n'avons pas d'armes. Mais toutes les fois, nous avons opéré notre sonnette d'alarme, nous avons décrié ce qui se passe, nous avons dénoncé, nous avons informé à temps opportun. Malheureusement, les gouvernants prenaient toujours à la légère nos dénonciations, nos informations et nos cris d'alerte, ce qui a fait que l'on puisse échouer. Nous ne savons pas si c'était par mauvaise foi que le gouvernement l'a fait ou c'était considérant que les dégâts ne pourra pas être celui qui a enregistré aujourd'hui. Donc, au niveau de la société civile, nous avons joué notre rôle. Il revient aux autres acteurs, c'est le gouvernement et la communauté internationale qui ont été tardifs à comprendre la situation telle qu'elle s'est présentée. Et peut-être qu'ils vont considérer ce moment comme étant un moment où on doit maintenant imposer la paix. Parce que un an de guerre, du M23, 20 ans de guerre au Nord Kivu, c'est déjà trop. On doit trouver des solutions immédiatement.
Merci Maître Omar Kavuta. Jason Stearns, vous êtes directeur du projet Usalama, un projet de recherche sur le conflit à l'est de la RDC. Quelle est votre analyse à vous par rapport à la situation du début des affrontements entre les FRDC et les M23?
Oui, merci madame, et j'ai beaucoup apprécié les interventions de mes deux collègues. J'aimerais parler de trois causes et de deux pistes solutions. Les trois causes que moi je les vois de la mutinerie, la rébellion de l'M23, sont d'abord l'échec de la politique d'intégration. Et là je pense que c'est cet échec de l'accord de 23 mars 2009, où le gouvernement avait intégré pas seulement le CNDP, mais beaucoup d'autres groupes armés ici à l'est du Congo. Mais en intégrant ces groupes armés, ils n'ont pas vraiment ciblé les causes profondes de la violence à l'Est. Et ainsi, la crise a persisté, mais aussi il y a eu une structure de commandement parallèle du CNDP qui a été mise en place, et géré en quelque sorte par le général Bosco Ntaganda pendant pas mal d'années ici à l'Est. Et c'est ce qui a amené, il y a une année, au gouvernement d'entrer dans un bras de fer, on pourrait le dire, avec les troupes de l'ex-CNDP. Et c'est ça qui a amené la mutinerie de l'M23. Donc on pourrait dire en quelque sorte que la mutinerie de l'M23 n'était que la conséquence naturelle de l'échec de cette intégration, surtout de l'ex-CNDP, des troupes de l'ex-CNDP. Deuxièmement, par rapport aux causes, il y a bien sûr, comme les deux autres intervenants ont dit, il y a eu l'implication des pays frontalières. Il y a l'implication surtout du Rwanda et un peu aussi de l'Ouganda, mais pas aussi clair comme le Rwanda. Alors ça, c'est parmi les causes profondes, pas seulement de cette dernière étape, mais depuis la guerre de 1996, la guerre de la Sahel ici à l'Est, il y a justement ces tensions. Donc on pourrait dire en quelque sorte que les tensions profondes, la géopolitique de la région qui avait créé la guerre de la FDL, la guerre de l'RCD, la guerre du CNDP, ces tensions persistent encore jusqu'à aujourd'hui. Donc là aussi, il y a du travail à faire. Et dernièrement, et je pense que c'est peut-être le plus important actuellement, surtout pour les Congolais, c'est la faiblesse des institutions étatiques. Parce que même s'il y avait une implication du Rwanda, il faut dire que le gouvernement congolais a échoué à défaire, à démanteler l'M23, ainsi aussi que la MONUSCO, parce que les deux étaient ensemble. Et donc voilà un peu les trois causes que moi je vois. Je vois aussi des pistes de solutions qui ont été essayées pendant l'année passée. La première piste de solution, c'était l'option militaire. Comme je viens de dire, là, pour moi, c'était plus ou moins un échec. Parce que l'M23, qui avait commencé comme une petite rébellion vraiment reculée contre la frontière rwandaise dans le territoire de Rutshuru, a réussi à s'étendre juste à prendre la ville de Bunagana, Rutshuru, et ensuite Goma en novembre passé. Et donc là, pour moi, l'approche militaire, qui était la première approche, était plus ou moins un échec pour moi. L'approche politique était, je pense, plus une réussite. Surtout la pression internationale envers le Rwanda et l'Ouganda. Pour la première fois, je pourrais dire, il y a vraiment un changement géopolitique dans la région, où il y a un changement des bailleurs de fonds envers le Rwanda surtout, et il y a des coupures d'aide au Rwanda de plus que 200 millions de dollars, ce qui a beaucoup coincé, je pense, le régime à Kigali, le gouvernement à Kigali. Et donc pour moi, on pouvait parler d'une réussite, mais une réussite partielle, parce que la guerre continue. Et on voit parmi les autres pistes, les autres approches politiques, on voit qu'on n'a pas réussi à trouver un processus viable, valable, pour trouver la paix. C'est ainsi que on voit le processus principal, les négociations de Kampala sous l'égide de la CIRGL, avec la médiation de l'Ouganda, n'ont pas réussi à trouver un accord entre l'M23 et le gouvernement de Kinshasa. Ici, on voit les différentes propositions. Oui.
Excuse-moi de vous interrompre. Est-ce que le gouvernement congolais avait les moyens de stopper cette rébellion du M23 avant que la situation ne dégénère?
Oui, je pense que oui. Donc au début, il faut que je dise, au mois d'avril, c'est le gouvernement qui a réussi à stopper. Parce que là, la mutinerie a commencé ici au Sud Kivu. Et ici, il n'y a pas eu de réussite de M23. Au Nord Kivu, là aussi, le gouvernement avait d'abord réussi à repousser les mutins jusqu'à la frontière avec le Rwanda. Mais après cela, ils n'ont pas profité juste de ces avancées, de leur position de force, pour défaire une fois pour toutes la rébellion de M23. Et même si s'il est vrai que le Rwanda a soutenu, a fourni une aide à l'M23, le gouvernement avait plusieurs milliers de soldats avec un soutien des Nations Unies contre l'M23, et je pense que là, il faut être franc, il faut voir qu'il y a eu des faiblesses de logistique, d'organisation, de structure, de morale au sein de l'armée congolaise aussi.
Voilà, on va prendre pour vous, Jason, cette réaction qui nous vient de Bunia dans la province orientale.
Maître David Mambo de Bunia en province orientale. Parvenir à exister une année durant prouve à suffisance que les M23 bénéficient d'un appui étranger avec une administration civile et militaire solide. Le peuple en a marre de ceux pourparlers qui ont montré leurs limites. La vraie solution viendra du dialogue entre Congolais, tel qu'envisagé par le président de la République.
Est-ce qu'on peut dire que c'est pour parler, initié par la CIRGL ou le gouvernement, ont montré leurs limites par rapport à cette situation du Nord Kivu?
Oui, je pense que oui. Comme je voulais dire avant, on voit dans les propositions qui sont actuellement sur la table à Kampala un très grand écart entre là où le gouvernement de Kinshasa se trouve et là où l'M23 se trouve. L'M23, il veut avoir 5 ans d'opérations conjointes où l'M23 peut garder le contrôle sur son territoire et sur son armée avant d'intégrer l'armée congolaise. Pourtant, le gouvernement, ils disent que ils ne vont pas accepter ces conditions. Il faut l'intégration inconditionnelle des troupes d'M23 au sein de l'armée en écartant ou en prenant cas par cas les officiers au-dessus du grade de lieutenant. Donc on voit, il y a un grand écart. Et il y a beaucoup de doutes aussi par rapport à la capacité de l'Ouganda, qui était parmi les pays qui étaient impliqués dans ce conflit, au moins d'après le rapport du groupe d'experts, de pouvoir mener ces négociations à terme.
Merci Jason. Les auditeurs sont très nombreux à nous envoyer leurs réactions. C'est le cas de Mathieu Bawere de Goma en Noir-Kivu. Les violations durant cette période peuvent se traduire par le déplacement massif des populations qui sont presque non assistées, le surpeuplement de la ville de Goma, la crise économique et l'insécurité dans la sous-région. Kalimba Mianda de Goma, toujours au Noir-Kivu. La force neutre s'annonce déjà pour traquer les forces négatives, y compris les M23. Pourquoi continuer encore avec le dialogue? Pourquoi continuer encore le dialogue avec le M23? Monsieur le gouverneur, la gestion de la guerre par le gouvernement congolais n'a pas été bonne, comme l'a dit Maître Barkavota.
Madame, oui, Maître Barkavota l'a si bien dit. Mais moi, je vais donner deux situations. La première situation, c'est que Omar Kavota a évoqué la faiblesse du gouvernement sur le terrain des combats. Mais il est de droit, de ma part, de devoir évoquer également la force du gouvernement dans la diplomatie, comme stratégie intérimaire pour devoir sauver les vies humaines. Alors, faut-il évoquer la faiblesse du gouvernement sur le terrain des combats ou évoquer la force du gouvernement dans la diplomatie pour stopper la guerre? Je crois que le choix est clair. La population ne se retrouve pas dans la faiblesse du gouvernement, mais elle se retrouve dans la force du gouvernement, dans sa diplomatie de devoir convier tous les États du monde à pouvoir l'appuyer pour stopper la guerre. Je crois que c'est cela mon analyse que je peux faire de ce que le président Omar Kavota a pu faire tout à l'heure.
Et mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour parler de Kampala?
Oui, pour parler de Kampala se retrouve dans la force du gouvernement d'activer la diplomatie parce que la stratégie pour sauver les vies humaines était d'abord de stopper l'avancée des rebelles du M23, de répondre à cette demande des pays de la CIRGL qui voulaient qu'on puisse écouter les déloyances légitimes du M23. Et le gouvernement a pu le faire. Mais quelle est la suite? Maintenant, aujourd'hui que je viens de recevoir les commandants en force de la brigade d'intervention James Aloïse que j'ai reçu il y a 3 heures, il se pose une question par rapport à la suite de Kampala. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que la brigade est déjà sur le terrain, elle ne regarde que tout ce qui s'appelle force négative, y compris les M23. Je crois que ce sera les grandes questions que l'on doit se poser aujourd'hui. Si Kampala doit continuer, c'est pour aider à ce que la force ne puisse pas occasionner beaucoup de pertes de vies humaines si à la suite de l'accord de Kampala, les M23 acceptent de déposer les armes. Je crois que ce n'est pas mal si le gouvernement continue à demander au M23 de déposer les armes pour ne pas se faire tuer inutilement. C'est comme un parent qui approche ses enfants lorsqu'il trouve qu'un ouragan va bientôt arriver, de lui dire « ceci est prévisible, si tu t'écartes de cela, eh bien, tu peux sauver ta vie ». C'est ça la démarche du gouvernement auprès du M23 que je peux avancer maintenant.
Et donc, au cas où les M23 acceptaient de déposer les armes après les pourparlers de Kampala, à quoi servirait la force d'intervention, la brigade d'intervention?
Il n'y a pas que l'M23 qui constitue la force négative identifiée par tous les sommets des chefs d'État qu'on a eu à citer tout à l'heure. Il y a les M23, les FDLR, tous les groupes Maïmaï qui pilent dans la région, qui ont été signés même dans la résolution. Il y a la PCLS, il y a tous les groupes Cheka, tous les groupes Beni Lubero, les EDF Nalu. Je pense que si le M23 ouais. aujourd'hui accepte de devoir déposer les armes, ça sera une dépense de moins et des vies des humaines à moins qu'on aura sauvées. Vous
Merci.
Savez qu'au niveau du M23 d'ailleurs, pour être beaucoup plus concret, depuis le mois de janvier, nous venons d'enregistrer 519 éléments du M23 qui viennent de se rendre, et parmi lesquels nous avons réussi à faire traverser 116 éléments d'origine rwandaise qui ont traversé vers le Rwanda. C'est quand même des avancées significatives des Rwandais qui se trouvaient au sein du M23 que nous avons réussi avec la MONUSCO
et
de
voir
traverser jusqu'au Rwanda, cette fois-ci sans tambour ni trompette, parce que quand on l'avait fait l'année 2012, le Rwanda avait refusé d'accueillir
ses compatriotes. Merci, monsieur le gouverneur.
On l'a fait sans beaucoup de bruit.
Merci, monsieur le gouverneur. Maître Omar Kavota, vous avez suivi le gouverneur du Nord Kivu. Il faut plus privilégier la solution diplomatique pour éviter mort d'hommes au lieu de privilégier l'aspect militaire.
Mais que dire de ce comportement, de cette attitude du M23 qui vient de claquer la porte pour parler de Kampala. Nous pensons plutôt que le M23, lui, bien qu'on est en train de le dorloter, il a déjà choisi son option. Il a choisi l'option militaire, l'option de faire la guerre au gouvernement congolais, de faire la guerre aux Nations Unies, à la brigade d'intervention des Nations Unies. Mais ce qui nous pique, c'est de voir plus ou moins le comportement du gouvernement. On ne sait pas si le gouvernement considère le M23 comme partenaire ou comme véritable ennemi, parce que dans l'option où le gouvernement considère le M23 d'ennemi à combattre, des forces négatives, il n'aura pas la chasse, il n'a pas fait autant pour les ADF Nalu, il n'a pas fait autant pour les Maïmaï, il n'a pas fait autant pour l'APCLF et les autres groupes armés. Qu'est-ce qui fait que les M23 soient différents des autres groupes armés pour qu'on donne la chasse à dialoguer avec lui, à négocier avec lui, plutôt que de laisser la brigade d'intervention faire son travail? C'est ce qui fait effectivement que le M23 sur terrain brille par son arrogance. Pendant qu'on est à pourparler à Kampala, vous savez, madame, qu'aujourd'hui, le M23 ne fait que renforcer ses positions. Il ne fait que bénéficier des renforts rwandais et ougandais à territoire de Rutshuru et Nyiragongo. Il ne fait qu'avancer ses positions parce qu'aujourd'hui, il est à la porte de Lubero, au nord-ouest de Bichumbi. Mais tout ça, c'est parce que le gouvernement lui donne de l'importance. Et nous pensons que le gouvernement devait choisir une autre option. Si l'option politique est privilégié par le gouvernement, alors qu'il assoit autant pour les autres. Ils n'ont pas considéré le M23 comme partenaire, alors qu'au même moment, on le qualifie de force négative.
Alors, Maître Omar Kavota, vous restez en ligne. On va prendre quelques politiques qui se sont aussi exprimées sur l'évaluation à faire une année après, depuis le début des affrontements entre les FRDC et les M23. On les écoute au téléphone de Samuel Kachat.
Juvenal Munubo Mubi, député national, élu du territoire de Walikale, en province du Nord-Kivu, du parti politique Union pour la Nation Congolaise. Je pense que c'est une situation inquiétante et nos populations qui vivent par exemple à Rutshuru, c'est des gens qui sont sous une autre administration. Donc ils sont comme des otages en réalité. Sur le plan militaire, je crois que la gestion de cette guerre n'a pas été bonne parce qu'il y a eu plusieurs trahisons, il y a eu plusieurs complicités, mais en fin de compte, il y a eu peu de sanctions.
Joseph Bangakia, membre du bureau politique de la majorité présidentielle, est président national de l'ADH. La guerre menée par le M23 avec le soutien notamment du Rwanda fut la guerre de trop. Non seulement que cela montre à la face de la communauté nationale que le temps du pouvoir par la force est révolu, mais aussi nous avons vu que le fonds de commerce du génocide rwandais ne fait plus recette. Donc du point de vue politique et militaire, malgré les relents que nous connaissons à l'est du Congo, je considère que nous allons vers une fin durable de ce genre de phénomène.
André Alain Tundeliongo, président national de CDR, Convention pour la démocratie et la République, parti membre de la majorité présidentielle. Cela fait effectivement un an que les hostilités se sont déclenchées entre le M23 et les autorités nationales, les forces armées. La leçon que nous pouvons tirer, c'est que ce qui nous arrive est de la responsabilité de nous autres, le Congolais, quels que soient les sponsors. Si le Congolais n'est pas d'accord d'être utilisé par un sponsor généralement quelconque qui poursuit ses intérêts propres, eh bien, le sponsor va s'arrêter à la frontière.
Je suis Jean-Martin Moukonkolé, secrétaire général du parti politique La Convergence Chrétienne, membre de l'opposition politique dans notre pays. Il y a une année, les hostilités ont commencé à l'est où des négociations entre les M23 et la partie gouvernementale. Moi, je ne peux pas d'abord me réjouir de fêter une année des hostilités parce qu'il y a des Congolais, des Congolaises qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur travail et qui sont dans une instabilité totale à l'est de la République. Vous pouvez dire qu'il y a accalmie peut-être par rapport au balai diplomatique, mais si vous êtes à Kiwanja, si vous êtes de l'autre côté de l'est, ce sont des troubles, ce sont toujours des gens qui sont dans une insécurité, dans une instabilité totale. Donc, nous pensons que c'est nécessaire et c'est urgent qu'il y ait un dialogue, que des Congolais se retrouvent autour d'une table.
Maître Omar Kavota, comment vous réagissez à tous ces points de vue que vous venez de suivre et à certains qui estiment que la responsabilité revient aux Congolais et d'autres par contre qui pensent que c'est une guerre de trop, mais il faut saluer quand même les avancées du gouvernement pour mettre fin à cette guerre et d'autres qui estiment que la gestion de la guerre a été mal gérée par le gouvernement.
Madame, je suis d'accord avec le dernier auditeur, mais également d'accord avec les honorables Juvenal Mounoubou et Bangaki, parce que il faut considérer que le M23 vient de passer une année. C'est parce qu'il a été toléré par le gouvernement. C'est parce qu'il a bénéficié de l'indulgence du gouvernement. Et s'il faut qu'il fasse encore une année, là on pourra carrément dire que le gouvernement est son complice. Mais nous devons reconnaître que le gouvernement a effectivement enregistré certaines avancées. Mais ce ne sont pas des avancées considérables au regard de l'ampleur. Parce que la situation telle que vécue à ce jour, dans les territoires sous administration du M23, la population souffre, elle est meurtrie, elle est pillée, elle est violée. On ne doit pas considérer que cette population soit laissée à la merci du M23. S'il y a des accords secrets, s'il y a des vérités non connues du peuple, des accords peut-être entre l'Ouganda, le Rwanda et le gouvernement, il faut que le gouvernement nous aide à dire la vérité et étaler cela au public pour que nous tous, nous puissions participer à la solution. En tout cas, l'ambiguïté et l'indulgence du gouvernement vers le M23 laissent à croire certaines suspicions. Et nous pensons qu'effectivement, il est urgent que les dialogues, les concertations nationales telles que proposées par le chef de l'État soient faites le plus tôt, pour qu'on essaie de saisir certaines vérités, pour qu'on essaie d'analyser ensemble et voir quelles sont les solutions qu'on peut envisager ensemble pour que l'on ne puisse pas se considérer des suspects.
Merci, Maître Omar Kavota. Jason Stern, nous passons aux solutions. Vous avez commencé déjà à évoquer certaines pistes de solutions initiées par le gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour trouver une solution à cette situation du Nord Kivu ou à la fin de ces affrontements entre les FRDC et les M23 dans le Nord Kivu?
Bon, pour rejoindre un peu ce que les autres intervenants ont dit, je pense qu'il est vrai que dans le court terme, le gouvernement se trouve dans une position de force. Et dans le court terme, il est possible d'envisager une solution par rapport au M23, dans le sens que, avec l'arrivée de la brigade d'intervention, il n'y aura pas seulement une nouvelle dynamique militaire qui va naître, mais là, je pense que c'est ça qui est plus important, une nouvelle dynamique politique. Il y a l'implication de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud. Les 6 des soldats de la brigade d'intervention meurent sur terrain. Immédiatement, le président Zuma et le président Kikwete vont s'impliquer personnellement. Et donc, je pense que cette nouvelle dynamique politique pourrait renforcer justement la position du gouvernement. Donc, le court terme, je pense, la diplomatie, d'une certaine façon, du gouvernement a réussi. De l'autre côté, je pense, la solution à long terme ne se présente pas, dans le sens que je pense qu'il y a un confort un peu illusoire dans cette victoire militaire qui pourrait s'effectuer, dans le sens que les causes profondes de la crise ne vont pas être adressées. Les causes profondes, je parle de la faiblesse de l'armée, une armée qui a de la peine de se réformer. Je parle de renforcement de la capacité de l'État. Nous avons un processus démocratique qui aussi a beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. On vise la décentralisation de l'État, les élections locales qui toujours n'ont pas eu lieu, toujours beaucoup de problèmes de corruption et mauvaise gestion au sein de l'État. Donc je pense que il ne faut pas croire, justement parce qu'il y a eu des avancées politiques et diplomatiques, surtout par rapport à la brigade d'intervention, que ces causes profondes vont être résolues immédiatement. Et c'est là que je salue l'accord cadre, parce que l'accord cadre parle justement de cet aspect. Il parle d'un côté de l'implication, l'ingérence du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi peut-être, à l'est du Congo, mais de l'autre côté, il parle aussi de réforme des institutions étatiques. Et des critères pour réformer les institutions étatiques. Donc je pense que c'est à travers cet accord cadre, si tout le monde est sincère, qu'on pourra peut-être avancer vers une solution à long terme.
Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'après le départ de cette brigade d'intervention, qu'il y ait d'autres rébellions qui résurgissent ou qui naissent au Nord Kivu?
Voilà, justement, c'est exactement ça que je veux dire. Donc c'est le sens que la brigade d'intervention va arriver, ils vont pas faire des décennies ici à l'est du Congo. Nous sommes ici en guerre à l'est du Congo depuis 1996 au moins, si ce n'est pas avant. Et je pense qu'il faut réfléchir par rapport à tout cela. Récemment, à Kinshasa, il y avait un séminaire sur le processus de Saint-Petit, parce que c'est notre anniversaire, ça fait 10 ans maintenant que ce processus de Saint-Petit a commencé à Saint-Petit en Afrique du Sud. Il faut aussi se rappeler, je pense, par rapport à ces processus plus larges politiques. Où est-ce que la RDC se trouve par rapport à ce processus, à la guerre qui a commencé pas seulement depuis l'année passée, mais qui a commencé depuis 1996.
Merci Jason Stern. Julien Paluku, nous reste moins de 4 minutes pour mettre fin à cette émission. Quelles sont les solutions que vous proposez?
Merci beaucoup. Avant d'y arriver, je voudrais rappeler tout de suite que ce que Maître Kavot a dit et moi, c'est pratiquement la même chose. Parce que lui regrette ce que le gouvernement n'a pas fait, tandis que moi j'annonce ce que le gouvernement a pu faire pour protéger les vies humaines. En fait, quand le croisement de nos deux points de vue m'amène à conclure que ce que le gouvernement a fait prime sur ce que le gouvernement n'a pas fait. Parce que tout simplement, les vies humaines ont été protégées. Alors, à terme des solutions, j'estime qu'il y a 3 paliers dans les solutions. Le premier palier, c'est l'opérationnalisation de la brigade d'intervention. Et elle est déjà là, c'est une bonne chose.
Deuxième palier,
c'est que le gouvernement congolais doit rapidement mettre en place la force de réaction rapide telle que l'accord cadre le dit. Et le troisième palier, c'est que il faut qu'il y ait des enquêtes nationales et internationales sur les crimes de l'Est. Parce que comme vous le savez, Bosco Ntaganda est à la suite de ce qu'il a fait à Ituri, mais jamais la CPI n'a encore commencé les enquêtes ici à l'Est pour qu'on puisse sortir des mandats à l'encontre de tous les criminels qui sont recrutés ici à l'Est. Donc ces enquêtes-là, au niveau national et au niveau international, sont importantes et ça sera pour nous le moyen de lutter contre l'impunité et désormais d'éviter le recyclage des groupes armés dans la partie est de la RDC.
Merci, monsieur le gouverneur. Je considère cela aussi comme votre conclusion, maître Marc Kavota. Vos propositions, vos pistes de solutions et votre conclusion.
Oui, la première proposition, c'est que le gouvernement doit mettre fin au pourparlers entre lui et le M23. Il doit préparer les terrains pour la brigade d'intervention pour qu'elle puisse être efficace. Et ensuite, il doit organiser des dialogues sociaux, contacter les leaders sociaux pour qu'on encourage les autres groupes armés à sortir de leur objectif de guerre pour que cette fois-ci, on ait un nombre réduit de groupes armés. Donc, il y a lieu de favoriser un travail efficace à la brigade quand on a réduit les groupes armés. Mais lorsqu'on négocie seulement avec le M23, c'est comme si on lui donne de l'importance que les autres groupes armés, et ça devient très dangereux.
En conclusion, voilà, je crois qu'on a un problème avec la ligne de maître Marc Kavota, Jason Stern, un mot en guise de conclusion.
Bon, je pense que presque tout a déjà été dit. Je pense que la conclusion, c'est qu'il faut mettre en place l'accord cadre. C'est un processus, je pense qu'il faut se rappeler, c'est un processus d'une année ou quelques mois, peut-être en plus processus de plusieurs années, et peut-être un processus qui va pas seulement cibler l'implication régionale, mais aussi réforme ici au Congo.
Merci Jason Austin, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui nous a aidé à préparer cette émission. Guy Maté, Alain Hong, Samuel Kachak sous la supervision de Pele Kipela Mundo. Merci à Alain Goy qui est à la technique, au micro Kélin Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la précoce de la paix.